بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي من شفاعه الإسلام نغمس الله عز وجل qui nous donne la possibilité, donc après ce mois de Ramadan, de reprendre donc ces programmes concernant Riyad al-Salihin. Et on rappelle que le principe de ce livre, de cette compilation de hadith Riyad al-Salihin, le principe c'est de commenter des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait commencé au tout début par un chapitre concernant la sincérité. On avait ensuite passé quelques mois sur un autre chapitre concernant la patience dans les épreuves, la patience dans les difficultés. Et durant le mois de Rajab, il me semble qu'on avait commencé le troisième chapitre qui s'appelle Bab al-Sidr, le fait d'être véridique. Et parmi les sifats de la personne véridique, c'est le fait de dire la vérité. Alors tout d'abord, subhanallah, par la grâce d'Allah, donc, dans le mois de Ramadan, comme vous avez remarqué, on n'a pas pu être présent ni assurer, on va se rapprocher un petit peu, mais on n'a pas besoin de parler trop fort. On n'a pas pu assurer les programmes qu'on faisait l'année dernière et les années avant ça, sachant que par la grâce d'Allah, Allah Azza wa Jalla nous a invités via sa maison, à Makkatul Mukarrama. C'est pour répondre à la question de certains de nos frères qui avaient demandé pourquoi on n'a pas eu les programmes comme tous les ans après le Salat al-Tarawih. Mais Alhamdulillah, il y a notre ami Sajid qui a pu faire ces programmes, qu'Allah accepte et lui donne As-Sadad dans sa science, Inch'Allah. Donc on a pu être, Alhamdulillah, à Makkatul Mukarrama, on a pu être en contact avec des grands mashaïkh, des grands ulama, les Aïmatul Haramain, on a été reçus également par le mufti de l'Arabie Saoudite, Ali Sheikh, Alhamdulillah, qui nous ont prodigué beaucoup de conseils, comment est-ce que le alim doit travailler, comment est-ce que le fundi, comme on appelle le fundi, le sheikh, le alim, ça c'est l'appellation en fonction des endroits, comment doit être la da'wa ilallah, et comment est-ce qu'on doit inviter les gens en permanence via le livre d'Allah et via les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, principalement cette époque où les fitan, où il y a tellement de sources de turpitude, où le péché est partout, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une catégorie de péché, voire plusieurs catégories de péché qui sont disponibles. Et on est arrivé à une époque où on n'a pas besoin d'aller chercher un péché pour accomplir un péché, malheureusement, le péché vient à vos portes. Le péché à portée de vous, le péché c'est quand vous sortez de chez vous, quand vous entrez dans le bus, quand vous sortez de votre voiture, quand vous entrez dans une grande surface, vous êtes au bureau, vous êtes même chez vous, vous allumez la télé, il y a le haram, vous cliquez sur internet, sur un bouton, il y a le haram, le péché est partout. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un musulman qui peut rester éloigné des péchés complètement. À moins qu'il aille habiter dans un petit coin perdu, il n'y a pas courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas internet, il n'y a rien, il vit seul. Mais ça c'est pas quelque chose de, c'est pas ce que l'islam nous demande. Dans le hadith, le prophète, il explique qu'une personne qui vit avec les gens, une personne qui vit donc en société, et qui fait preuve de patience face aux problèmes relationnels avec les gens, ben cette personne-là, elle a plus de valeur que celui qui s'isole. Donc nous comprenons que dans l'islam, le fait de s'isoler pour rester éloigné des péchés, ou alors pour s'éloigner des problèmes avec les gens, c'est sûr que quand on vit en société, on a affaire à différentes catégories de personnes. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça ne marche pas, il y a des fois où il y a des problèmes, c'est des prises de tête. Maintenant, à nous de savoir comment gérer les conflits avec les gens, de ne pas déborder sur des prises de colère, des ribat, des namima, des qilawaqa, c'est-à-dire ne pas faire, ne pas parler à tort et à travers, contrôler ses paroles, ne pas faire de la médisance, etc. Toutes ces actions qui sont malheureusement fréquents dans la société, dans notre communauté, Allah musta'an. Mais ça, c'est des conséquences directes du mukhalafa, le fait de vivre avec les gens. Mais celui qui vit avec les gens et qui fait preuve de patience, qui essaie de s'abstenir de ses erreurs et qui fait sabr, quand il y a des gens qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas sympas, ils vous font des remarques ou ils vous agacent, mais on fait preuve de patience. Cette personne-là, elle a plus de valeur auprès d'Allah que ce musulman qui s'est retiré de la société, même si ce musulman ne fait que des bonnes actions. Parce qu'on a été créé, subhanallah, pour les ta'arafou. Les peuples ont été créés pour qu'ils se connaissent entre eux. Et dans une même société, il y a des amal qu'on peut faire qui nous font accéder au paradis, donner à manger aux gens, faire salam aux gens, agir correctement envers les gens. Ces actions-là n'auraient pas pu les avoir si on vivait seul. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, dit que le joie des comptes, afqalu shay, la chose la plus lourde fil mizan, ce sera quoi? Dans la balance, la chose la plus lourde, ce sera quoi? Al-khuluq al-hasan. Le bon comportement. Alors maintenant, si on vit retiré, on ne fréquente pas les gens, on ne pourra pas faire preuve de bon comportement envers les autres. Donc cette action-là ne pèsera pas pour nous dans le livret des bonnes actions. Alors pour revenir au sujet qu'on a abordé en introduction, on a pu avoir des conseils, mashallah, très profitables avec ces grands machaïrs. On a reçu la visite des cheikhs Abdurrahman Soudeis, de Salah al-Boudir, des Aïma de Makka, de Madina, le Mufti d'Arabie, comme on a dit, Cheikh Ali Fawzan, c'est des grands savants, subhanallah. Et ça nous fait comprendre que la science religieuse, elle est universelle. C'est pas que les grands savants sont dans tel pays, ou que les grands savants sont dans telle contrée. Non, les grands savants sont dans le monde musulman entier. On trouvera de grands savants aux îles Comores, à Madagascar, en Arabie Saoudite, en Russie. On trouvera de grands savants en Inde, au Pakistan, dans tous les pays où il y a des musulmans, il y a des ulamas. Et chaque ulama doit être respecté pour le Coran qu'il a de son cœur et pour la science qu'Allah lui a donnée et pour le travail noble qu'il fait. Parce que les ulama ont rassasé l'anbiya. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Les prophètes d'Allah عليه الصلاة والسلام, ils n'ont pas légué de bien. Quand un prophète quittait ce dunya, on ne donnait pas leur bien en héritage aux descendants. Ça c'était sadaqa, ça. On ne pouvait pas donner au fils ou à la fille ou au petit-fils, petit non. Mais la seule chose que les anbiya alayhi salat wa salam ont laissé, c'est quoi? C'est la science religieuse. Innama warathu al-ilm. Et celui qui a pris de ça, ben c'est eux qui ont eu la plus grande part de l'héritage de ces anbiya. Et donc, comme Allah a dit au Coran, innama yakhshallaha al-ibadi al-ulama. Ceux qui ont la véritable khashyatullah de leur cœur, la crainte d'Allah réelle de leur cœur, c'est ceux qui ont la science religieuse. Et Allah a dit dans notre verset, fas'alou ahla dhikri. In kuntum la ta'lamun. Quand on ne sait pas, on a une question, on a problématique concernant la religion, qu'est-ce qu'on va demander à Ahlul Dhikr? Ahlul Dhikr, c'est quoi? Il faut faire très attention. Pour commenter les versets du Coran, il faut avoir étudié le Coran, les tafsirs et l'ouratul arabe. Si quelqu'un il connaît un petit peu l'arabe, dit Ahlul Dhikr, c'est sûr qu'il faut dhikr Allah. Je vois quelqu'un, cheikh avec son tasbih, je vais lui poser des maslas, c'est pas suffisant. Peut-être qu'il a la science qu'il faut, mais Ahlul Dhikr, shara'an, ça veut dire ceux qui ont le ilm, ceux qui ont appris la science religieuse. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, les ulama, alhamdulillah, ils sont dans le monde entier. Et à nous d'aller à la rencontre de ces gens, d'essayer de profiter. Je me souviens particulièrement, le dernier jour, on a reçu la visite d'un des imams les plus en vogue à Makkatul Mukarrama, qui s'appelle Cheikh Amu'aïqili, Mahir. Vous avez entendu parler, une voix magnifique. Je l'aurais imité pour vous, mais je ne sais pas l'imiter. J'ai une grosse voix, ça ne passe pas comme Mu'aïqili. D'accord, t'as-y? Et donc, il nous a donné des conseils, subhanallah, parce que les personnes qui étaient présentes, c'était une conférence, il y avait des gens de toute l'Afrique, 40 pays. Entre autres, il y avait un ami très proche des îles Comores, il s'appelle Ibrahim, comme moi. C'est quelqu'un qui a des sifas, si vous le connaissez aux îles Comores, subhanallah, allez voir cette personne, c'est un alim, il faut le dire, hein, c'est un grand savant. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de science, beaucoup de, un akhlaq exemplaire. Malheureusement, il y a la mère qui nous sépare, sinon on aurait travaillé ensemble, khair. Et donc, ce cheikh, il a un cheikh Ma'iq, il est imam à Makkatul Mukarrama, il a donné des conseils sur la sincérité, surtout quand on est imam, quand on est 5 ans, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le quota d'ikhlas qu'il faut avoir quand on prêche la religion? Ce sont là des paroles qui ressourcent. Parce que parfois on donne, mais on a besoin nous-mêmes de se ressourcer. Et là, c'était l'occasion. Et donc, on a eu un petit sacrifice. On n'a pas pu faire les programmes pendant le mois de Ramadan. Mais vous avez eu, alhamdulillah, quelqu'un qui avait encore plus de science, alhamdulillah. Et en demandant à Allah, Azza wa Jalla, l'istiqama, maintenant, les lundis, on va essayer d'être régulier. Un lundi sur deux pour reprendre ces hadiths sur Riyad al-Salihin. Et on avait commencé Bab al-Sidq. Et on se voit contraint de reprendre un petit peu parce qu'on avait commencé l'histoire de Ghazwat Tabouk et si on reprend avec la suite, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a dit il y a deux mois et demi. On avait donné au début une définition de As-Sidr. Dans la langue française, As-Sidr, c'est être véridique. Dire la vérité, c'est un point, mais être véridique, c'est quelque chose de beaucoup plus humble, de beaucoup plus profond, on verra par la suite. Et on a vu que, par exemple, celui qui fait une action par ostentation, il n'est pas parmi les sadiqin. Comme Allah dit, ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, les gens qui ont la foi, soyez, ayez la crainte d'Allah, ayez la crainte d'Allah et soyez parmi les véridiques. Celui qui fait une action avec ostentation, par exemple, il n'est pas parmi les véridiques. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait n'est pas en accord avec ce qu'il y a dans son cœur. Pareil, celui qui est hypocrite, il n'est pas véridique. Parce que ce qu'il dit n'est pas en accord avec ce qu'il y a dans son cœur, etc., etc. On avait essayé de comprendre, c'est quoi le véridique? C'est celui qui fait, celui dont les actions et les paroles sont en accord avec ce qu'il y a de son cœur. Ce que vous faites, ce que vous dites, ça doit refléter la pureté de vos actions extérieures, doivent refléter la pureté de votre intérieur. le nour, la sakina, la sagesse qu'il y a dans votre cœur, ça doit se manifester à travers chacune de vos actions. Et on avait commencé le récit sur la bataille, la Ghazwatut Tabouk, et c'était une bataille extrêmement, il n'y a pas eu de bataille réellement, c'était une expédition extrêmement éprouvante, et le shahid, ce qui nous intéresse dans cette histoire, ce n'est pas de raconter l'histoire, non, ça c'est les programmes de Sirah. Ce qu'on, où on veut en venir, c'est l'histoire de Ka'b, radiallahu anhu. Il a choisi d'être parmi les véridiques dans un moment extrêmement difficile. Et il savait que, en faisant preuve de ce sifat, en étant parmi les véridiques, il y aurait des contraintes. Alors que parmi les gens qui n'ont pas participé à la Ghazwatut Tabouk, il y avait des gens qui ont menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont reçu le pardon, et on pourrait dire en français, ils s'en sont bien tirés, aucune conséquence. Tandis que lui, il savait qu'en disant la vérité, pourquoi il n'est pas venu, il y aurait des conséquences, mais il a préféré être parmi les véridiques. Il y a trois points qui nous intéressent dans Ghazwatut Tabouk. Concernant ce chapitre, il y a trois leçons essentielles à retenir. Alors un petit récapitulatif très rapide. On est en l'an 9 de l'Hijra. Quand on parle de l'Hijra, c'est-à-dire on est à Makkah ou à Madina. L'Hijra. On est à Madina. Le Hijra, c'est quand le voisin m'a quitté Makkah pour aller à Madina. Ça, on appelle l'an 0. C'est le début du calendrier islamique. Donc, on est en l'an 9 de l'Hijra. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a eu des nouvelles de la part de ces personnes qui suivaient les ennemis. On peut appeler ça des espions. C'était la méthode de guerre à l'époque. Hein, on avait les gens, chaque chef de pays avait des gens qui surveillaient les mouvements. Est-ce que les PS bougent? Est-ce que les Romains sont en train de bouger? Est-ce qu'ils préparent une armée? Parce qu'avant il n'y avait pas MSN, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait rien. Comment vous savez qu'une armée arrive? C'est quand vous les voyez, c'est trop tard. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en arabe des Ayn. C'est pas Jassous. Le Jassous c'est un espion. Le Ayn c'est quelqu'un qui observe. Et quand il y a danger, il vous tient encore attention, il y a du mouvement là-bas. Et justement, une de ces personnes surveillait les Romains. Et vous savez que les Romains à l'époque c'était la grande puissance, d'accord? Et il a annoncé au prophète alayhi salatu wassalam que les Romains sont en train de préparer une armée pour venir dans la péninsule arabe pour attaquer les musulmans. Et vous savez, les Romains étaient beaucoup plus nombreux que les musulmans. Il aurait suffi qu'ils envoient une armée et ils auraient pu tuer chaque musulman, homme, femme et enfant, à un tel point qu'il ne resterait plus une personne qui dit « La ilaha illallah » de la péninsule arabe. Mais Allah les en empêchait, bien sûr, pour qu'on comprenne bien le contexte. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, décide de monter une armée pour aller cueillir ces Romains, avant qu'eux ne viennent, ils franchissent les frontières de la péninsule arabe. Et là, on avait fait une petite parenthèse, on ne va pas revenir trop là-dessus. Comprenez qu'à chaque fois qu'il y avait des batailles, ce ne sont pas les musulmans qui sont allés chercher les ennemis. Ils ne sont pas allés chercher le combat. Tant à Badr qu'à Uhud, c'est à Badr, il fallait récupérer ce qui a été volé injustement. À Uhud, c'était la vengeance des mouchriques, etc. Contrairement à ce que nos enfants apprennent à l'école, où on dit que les musulmans, c'était des barbares, des brigands, des bandits de grand chemin, avec des épées qui attaquaient les gens pour voler leurs biens et pour les convertir de force. Ça, c'est le discours que vos enfants apprennent à l'école. Donc, à nous de rectifier. Et ce point-là, on l'avait longuement abordé durant le mois de Rajab. Et donc, cette campagne de Tabouk avait comme particularité le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, a annoncé aux sahaba que voilà, nous allons à Tabouk. Alors qu'en temps normal, le prophète, lorsqu'il devait mener une armée vers une localité, il disait aux sahaba, il y a une armée, on y va. Il ne disait jamais où est-ce qu'on se rendait. Pourquoi? Parce qu'il savait que même les mouchriquines, même les Perses, les Romains, ils ont des espions aussi dans la péninsule arabe. Et donc, il ne voulait pas que ces gens-là savent où est-ce que l'armée musulmane se dirige. Et les ulama, rahimahoullah, hein, ils expliquent à travers cette habitude pour Assalam que le musulman doit prendre toujours des précautions. Il n'y a pas de contradiction entre le fait de prendre des précautions et le fait d'avoir confiance en Allah. Il y a des gens qui se disent que, même Moufia, même ici je pense, on a des jeunes, des élèves qui viennent masjid, ils laissent le vélo, je vais Moufia, c'est comment? L'escalier, il faut monter là-haut. Ils laissent le vélo, ils montent le namaz. Je dis, attache le vélo, on va faire salat là. Allah protège. Allah protège, oui, mais Allah, le prophète t'a également demandé de prendre des précautions. Ça, on voit clairement que le prophète sallam, il avait, qui c'est qui avait plus confiance en Allah que le prophète sallam? Personne. Il avait une confiance inébranlable en Allah, mais on reste des humains. Nous vivons avec des humains. C'est pas des malaïkas qui sont autour de nous, moi compris. Il y a des humains. Certains sont bien intentionnés, d'autres mal intentionnés. Il y a des sunnats d'Allah. Allah Ta'ala a organisé le monde d'une certaine façon que il y a des gens mauvais, il y a des gens qui sont corrects, pas des gens bons, il y a des gens bien, d'accord? Et donc, nous devons de prendre des précautions. Ça, c'est la sunna d'Allah. Une fois, un sahaba, il vient faire la salat à la masjid, il laisse son chameau, comme ceux qui laissent la moto ou le vélo, il laisse son chameau et il rentre faire la salat. Et le chameau, il est parti. Vous savez, le chameau, c'est un animal qui fuit, ça. Et le prophète lui a donné le conseil, « Aqilha, attache ton chameau, summa tawakkal ala Allah. » Attache ton animal, et ensuite, aie confiance en Allah. Tu as pris tes précautions, maintenant tu n'es pas à l'abri que quelqu'un vienne, il coupe la corde et tout. C'est possible, mais tu as pris tes précautions, maintenant tu t'en remets à Allah. C'est Allah qui surveille, qui te protège, tu as fait donne. Ça nous fait comprendre que le prophète, alayhi salatu wassalam, prenez des précautions. Et le musulman se doit, dans n'importe quelle chose qu'on fait, on doit joindre la confiance en Allah avec l'action. Nous devons être acteurs de notre vie, prendre des précautions, agir. Et ça, la question, on peut par analogie reporter pour le fait d'avoir sa subsistance. Alors, nous savons le ayat qui dit « Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ». Celui qui a la confiance en Allah, Allah, on pourrait dire, lui donne une sortie. En français, on pourrait dire Allah lui ouvre toutes les portes. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah lui donne sa subsistance, je ne sais pas la traduction littérale, mais d'une manière qu'il ne s'imaginait même pas. Dans un hadith, le prophète m'a dit que si les humains avaient une véritable confiance en Allah, ben, ce serait comme les oiseaux. Ils quittent le nid le matin, le ventre vide, et ils retournent le ventre plein. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui travaillent? Est-ce qu'ils ont un contrat? Est-ce qu'ils ont un CDD, un CDI? Non! Ils ont confiance en Allah. Allah les mène via le risque, via la subsistance. L'être humain, c'est pareil. Les hadiths parlent de la confiance en Allah. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, dans d'autres hadiths, insiste sur le fait que le musulman se doit de talabur risque, de rechercher sa subsistance. Talabur risque, le raison du hadith que le chevalier de rechercher sa subsistance, c'est parmi les devoirs du musulman. Le hadith dit que tel prophète faisait tel travail. Le hadith dit que le meilleur argent, la meilleure subsistance qu'un musulman peut avoir, c'est celle qu'il va obtenir à la sueur de son front. Ça, c'est valeureux, ça. Ça, c'est honorable, ça. Qu'un père de famille, le matin, il se lève, se réveille, il va travailler. Il se fatigue, il transpire, et il ramène à manger, bi'ibnillah, pour sa femme et ses enfants. Ça, c'est une action appréciée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une action appréciée par Allah Azza wa Jalla. Et de la sorte, nous devenons des acteurs de la société. Autrement, les gens nous pointent du doigt. Ah oui, mais lui, il ne travaille pas, il vit des prestations sociales. Non, nous devons montrer que nous sommes musulmans, nous sommes actifs. Et là, j'encourage les jeunes. Il y en a pas mal, il y a plus de jeunes que d'anciens. J'encourage les jeunes à bien travailler à l'école, à s'appliquer, à avoir votre bac avec mention. Il ne faut pas juste dire « je vais avoir le bac ». Avoir le bac avec mention, passer des concours, entrer dans les meilleures écoles possibles. N'allez pas faire comme ceux qui font BTS, qui font STT, STI, STG, ils vont faire des... Ça avance à rien. Comme je dis aux jeunes au centre-ville de Saint-Denis, jusqu'à quand on aura besoin de comptables? Des gens, la plupart des jeunes font comptables. Ils vont compter l'argent des gens jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils ne vont pas produire de l'argent. Ils vont compter l'argent des gens. Nous, on veut des jeunes qui, disons, le bac S avec mention très bien. Ils vont faire prépa de médecine. On veut des médecins musulmans. On veut des dentistes musulmans. On veut pour nos épouses des gynécos musulmanes. On veut des professeurs d'école musulmans et musulmanes. Moi, j'aimerais que comme mon épouse, elle va chez le dentiste. C'est une dame qui l'accueille, c'est une musulmane en qui on a confiance. On a besoin de toutes ces personnes. On a besoin des ingénieurs. On a besoin de journalistes. On a besoin de caméramans, on a besoin de gens qui travaillent dans la presse, dans les médias, pour contrecarrer toute la pression médiatique qu'il y a, toute la désinformation qui vient de différents endroits que vous savez très bien. Si on reste assis comme ça, on va faire ibadah, faire notre salat, c'est bien, mais est-ce qu'on est productif? Est-ce qu'on fait avancer le monde musulman? Maintenant, si on se dit que, écoute, ici à la Réunion, tranquille, comment appelle cette chanson-là, fait entendre dans le bus comme ces jeunes, vous savez cette chanson-là? C'est le RMI, là, le RMI. Le E, le M, le I, ça même aux affaires. D'accord? Voilà, ma pointe boule, ma pointe travail, machin, mais mina gros loto, le E, le M, le I. C'est une chanson créole, ça. Elle dit, comme il ne travaille pas, il ne faut rien, mais mon secret, c'est quoi? E, M, I. Avec ça, c'est ça même aux affaires. Voilà. On ne va pas prendre des Dalí. Il y avait Jardino avant, il y avait une autre chanson, mais un peu plus grossier. D'accord? Ça, c'est pas le mode de vie d'un musulman, ça. Je n'ai pas le droit de me dire que, bon, de toute façon, ici, on a telle facilité. Ben, même si je ne travaille pas, que je travaille pas, c'est à peu près le même montant. C'est peut-être une réalité. Mais qu'est-ce que, toi, comme musulman, tu as apporté à la Oumma? Tandis que si tu étais un médecin, si tu étais chirurgien, tu étais dentiste, tu étais ingénieur, wallahi, tu aurais apporté quelque chose à la Ummah islamia. C'est ça le but. Faites des études, dans le but de pouvoir aider votre communauté, de pouvoir faire avancer. Et quand vous avez des compétences, vous soutenez les jeunes. Vous aidez les jeunes à monter également, à faire leurs devoirs, à comprendre, et vous les encouragez. Parce que dans la rue, personne n'encourage l'autre pour travailler. Dans la rue, c'est le zamal, c'est rouler en vélo depuis là-haut, depuis lycée Buton, il y a moins jusqu'à Saint-Clotilde, il y a des fins, c'est Safa, Inna Safa, Wal Marwata, Min Sha'a'irillah. Ça vous apporte quoi, ça? Je parle en connaissance de cause, mes élèves, ils le font, dans tout le quartier Oufia. C'est pas avec ça qu'ils auront leur brevet, c'est pas avec ça qu'ils auront leur bac. Ils ont pas beaucoup de moyens. C'est la même population. Ils ont du mal à payer les cotisations mensuelles, mais ils ont PSP, ils ont tout ça, ils ont CanalSat, subhanallah. Divertissement, c'est pas interdit. Mais divertissement, d'accord, les parents donnent pour que l'enfant s'amuse, d'accord. Mais est-ce que les parents suivent ces enfants? Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils suivent leurs résultats? Est-ce qu'ils font leurs devoirs à l'école? Est-ce qu'ils réussissent? Est-ce qu'ils veulent les envoyer dans des filières poubelles, comme il y en a beaucoup, où ça ne débouche à strictement rien? Ou alors ils veulent que leurs enfants réussissent dans la vie? Réussir dans sa vie de dîn, c'est important, mais réussir dans sa vie de dunya également, c'est important dans le but de faire la nusrat du dîn pour pouvoir aider notre dîn. Moi, je connais des médecins musulmans, subhanallah, qui apportent beaucoup à notre communauté. Si vous allez dans certains pays, des pays musulmans bien sûr, mais là c'est à notre niveau, en Arabie Saoudite, hein, où j'ai été pendant quelques temps, ben vous avez des gens qui ont tous les métiers comme il y a dans les pays occidentaux, et ces gens-là sont actifs avec leurs moyens financiers. Vous êtes médecin, subhanallah, vous touchez 10 000 euros par mois. Je ne sais pas si c'est comme ça, hein. C'est 10 000 euros par mois. Ben, subhanallah, vous pouvez aider votre masjid. C'est mieux que quelqu'un touche 10 000 euros, il peut aider sa masjid, que quelqu'un touche le SMIC, il n'apporte rien. Nous comprenons que nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin d'avancer parce que nous avons compris la vérité. Il y en a qui avancent, mais aveuglement. Ils vivent pour leurs études, ils vivent pour leur travail. Ils n'ont pas de stabilité sur le plan familial. Ils sortent avec une copine, une semaine après il sera quelqu'un d'autre, une semaine après un autre collègue, etc. etc. C'est comme, ils n'ont pas de conception de la vie, ils ne savent même pas pourquoi ils vivent. Ils vivent jusqu'à mourir. Ils vivent tant qu'ils sont en bonne santé, ils profitent, ils jouissent de tout ce qui est possible. Et quand arrive l'heure de mourir, ils seront satisfaits parce qu'ils ont bien vécu sur ce dunya. Akhirat, Jannah, Nar, Liqa'ullah, Al-Hashr, Al-Mizan, Al-Sirat, tout ça ils ne savent pas. Nous on sait qu'est-ce qu'il y a. Allah nous a donné ce iman qui nous permet de faire la relation entre ce monde et l'au-delà. Nous savons pertinemment qu'à partir du moment où le musulman quitte ce monde, c'est là que tout commence. C'est ce qu'il a construit qu'il va voir réellement de ses yeux. Mais cela, avec cette chance que nous avons, Allah nous demande également de nous préoccupé de réussir correctement notre passage sur le dunya, en telle sorte que personne n'a à demander à son prochain. Par exemple, il y a al-yadul ulya khayrun min al-yadi sufla. La main qui est au-dessus, qui donne, est mieux que la main qui reçoit. Et le hadith, par exemple, dit al-mu'min al-qawi ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if fi kulli khayr. Le musulman qui est qawi, qui est fort, est plus aimé par Allah que celui qui est faible. Le prophète dit que mais dans les deux, il y a un bien. Allah aime les deux, et Allah il connaît les faiblesses de chacun. Mais si on peut apporter quelque chose, c'est mieux que de subir. La parenthèse est un peu longue, pour revenir. Donc, subhanallah, si on devait parler du mode de vie du prophète, on n'en finirait plus. Dans chacune de ses actions, il y a des livres à écrire. Parce que cet homme-là, il était parfait. Cet homme-là, il n'avait pas un défaut. Cet homme-là, tout ce qu'il disait, c'était de la magie. C'était des paroles extraordinaires. Allah Ta'ala lui a donné min jawami'il kalim. Jawami'il kalim, c'est quoi? C'est quelques mots qu'il dit, mais c'est des mots exceptionnels. Il y a des livres à écrire. C'est plus fort que les philosophes, les littéraires, je ne sais quoi. Ça, c'était la force que Allah Azza wa Jal a accordée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, le prophète sallam a annoncé aux sahaba que nous nous rendons à Tabouk. Et là, les musulmans se sont préparés et ils se sont réunis pour accompagner le prophète alayhi salatu wa salam, à l'exception de trois personnes, Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabi' et Hilal ibn Umayya radiyallahu anhum. Hadith dit, yaqulu Ka'b inna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam tajahhaza huwa wal muslimuna wa kharaju min al-Madina. Donc ils se sont préparés et l'armée a quitté la ville sainte de al-Madina an-Nabawiyya. Et il dit que c'était une campagne difficile pour les hypocrites. Pourquoi? Jamais il y a eu une campagne aussi compliquée que celle-là. Premièrement, c'était en plein été. Vous savez, l'été en Arabie, c'est pas simple. Là, on était là-bas, à Makkah, à Madina, on était à Riyad, à l'heure de Zohar, j'ai demandé à la population locale, mais il fait tellement chaud, c'est dément, fait combien? Il m'a dit que les pics de chaleur atteignent 55 degrés. Imaginez. Donc, c'était en plein été à Madina Munawara. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'était la saison, quand c'est l'été en Arabie, c'est quoi? C'est la saison de quoi? Des dates, des rotab, des dates fraîches. Et si, comme on avait dit il y a deux mois, si vous n'avez pas récolté vos dates maintenant, l'été est passé, c'est fini. Et subhanallah, une petite parenthèse encore, regardez comment Allah a organisé cette création. C'est sublime, il n'y a pas d'autre mot. J'ai parlé avec un agriculteur à Riyad, là-bas, il avait un verger. On a eu l'occasion de discuter avec cette personne. Comment est-ce que les dates poussent, il expliquait comment ils font l'iqa, bref, hein, ils font accoupler les arbres et le pollen, etc., etc. Il m'a dit que, contrairement à tous les autres fruits, les dates, c'est certainement le seul fruit au monde qui n'a pas besoin d'eau. Il a dit qu'au contraire, il a dit que nous, quand nos parents, quand ils voyaient des nuages, ils disaient « Oh Allah, on ne veut pas de pluie, envoie la pluie dans la ville, on ne veut pas la pluie dans nos champs. » Alors que n'importe quel agriculteur, il demande « Oh Allah, envoie la pluie. » Quel que soit le fruit, le légume fait pousser, vous voulez la pluie. Il a dit que quand il pleut, ça gâte les dates. La récolte est mauvaise. C'est khasara. Subhanallah. Allah fait en sorte que c'est une subsistance. Les gens ils peuvent manger et le vendre. Ça pousse dans un endroit aride et chaud et qui est compatible avec le climat. Ce qui fait que les gens ne seront jamais lésés. Regardez comment Allah a organisé sa création d'une manière parfaite. Vous arrosez un dattier, il meurt. Hadith ça. Vous arrosez un olivier également, il meurt. C'est des arbres qui ont besoin de sécheresse et avec la sécheresse, ils vivent. Ça c'est hadith. Ça c'est la création d'Allah Azza wa Jalla. Petite parenthèse. Et donc, la troisième difficulté, c'était la distance. Tabouk était une ville extrêmement éloignée de Madina. Si je ne m'abuse, Tabouk est à 800 voire à 900 kilomètres de Madina Munawara. Je vérifierai les chiffres. Mais imaginez, 800 ou alors 900 kilomètres. On ne parle pas de voiture, on parle à dos de chameau. Ou alors à cheval. Même un cheval, le cheval ne galope pas 800 km. Au bout de 3 jours, le cheval ne peut plus galoper. Donc c'était au trot. Ou alors la plupart à d'autres chameaux. Imaginez le temps qu'il fallait pour y aller. Donc c'était trois difficultés que les musulmans n'avaient pas connues dans d'autres campagnes. Ce qui fait que c'était que les gens sincères, et tous les sahaba, radiallahu anhu majma'in, étaient sincères, exemplaires. C'était un grand sacrifice pour participer à cette campagne. Et maintenant, il y a eu les hypocrites hein, qui ne voulaient pas. Et ils ont trouvé des excuses et ils ne se sont pas joints à l'armée des musulmans. On est à combien de minutes là? 27. On fait 35 minutes, Inch'Allah. Donc encore 7 minutes. On avance un petit peu. Et donc, Ka'ab, radiallahu anhu, hein, il avait l'intention de sortir avec les musulmans, d'aller avec le prophète, alayhi salatu wassalam, mais à chaque fois, il se disait que bon, l'armée vient de partir, moi j'ai un cheval très rapide, je vais les joindre très rapidement. Je vais aller demain. Je vais les rejoindre ce soir ou demain, allez demain soir. Il n'arrêtait pas de remettre et de remettre jusqu'à ce qu'il eut la nouvelle que l'armée est arrivée à l'endroit où il devait rencontrer les Romains, mais les Romains tout compte fait, ils ne sont pas venus. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le chemin du retour avec les sahaba. Et là, il était stupéfait de savoir que l'armée est de retour. Il ne va pas aller joindre les musulmans alors qu'ils sont sur le chemin de retour. Et il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur monumentale. C'était quoi? C'était de retarder le départ jusqu'à arriver au point où il n'a pas pu joindre l'armée des musulmans. Et en commentaire, les ulama, rahimahumullah, ils expliquent que lorsque on a la possibilité de faire une bonne action, lorsque les conditions sont réunies pour que vous faites une bonne action, il faut le faire tout de suite, n'attendez pas. Par exemple, vous avez 10 euros dans votre poche, vous avez l'intention de donner un sadaqa, et puis vous vous dites que bon, ben, après je vais donner. Ne faites pas ça, donnez tout de suite. Qui c'est qui vous dit après vous allez donner? C'est Shaitan. Shaitan il fait en sorte que vous reportez les bonnes actions jusqu'à ce qu'à un moment donné, soit vous l'oubliez, ou là vous n'avez plus tawfiq de le faire. Vous avez pu, Allah ne vous choisit plus pour faire l'action. Parce que peut-être que vous ne l'avez pas fait au moment où Allah vous a donné, vous a choisi pour, Allah pour accomplir l'action. Donc les ulama, rahimahullah, disent qu'il y a des choses qu'il faut faire attention dès les premières secondes. Entre autres, comme on vient de dire, l'accomplissement de bonnes actions. Vous pouvez faire quelque chose, faites-le maintenant. Par exemple, là, quelqu'un dit, bon, je vais lire un coup tabarak al-ladhi avant de dormir, je sais que c'est sunnah. C'est supposé que quelqu'un ne connaisse pas par peu, d'accord? Il y a un Coran, il y a un mushaf ici. Il dit que, il y a mon cas. Vous arrivez à la maison, il y a les enfants qui pleurent, il y a madame qui dit, oui, la journée c'est comme ça, il manque ci, il vous casse la tête, il mange votre coco, il y a telle affaire, il y a pour faire dormir l'enfant, il y a pour faire telle chose. Vous allez vous asseoir devant la télé, vous allez regarder la télé, vous avez quelqu'un qui vous téléphonera, vous allez vous coucher, aïe, j'ai pas lu tabarak al-ladhi hier soir. Vous avez eu la possibilité de le faire, vous aviez eu la possibilité de le faire, vous l'avez reporté sans raison valable, ça sort. vous pouvez plus le faire, vous avez plus tawfiq de le faire. Donc quand on a la possibilité de faire une bonne action, vous avez le niya de le faire, il faut le faire immédiatement. Parce que c'est Shaitan qui vient, qui vous insuffle à l'waswasa. Il vous insuffle, tu le feras après, il y a le temps. Là-bas, Utkal sera plus tranquille. Tu vas te concentrer. Là, ils vont fermer, vous allez, tu vas gêner les gens. Non, tous, il va vous trouver mille et une raisons pour ne pas faire la bonne action. Parce que son but, c'est quoi? C'est de vous freiner dans les bonnes œuvres. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention dès les premières secondes, le ulama explique, c'est dans la patience. Quand quelqu'un est touché par une difficulté, elle doit faire preuve de patience immédiatement. Comme le prophète, une fois, il a vu une dame qui pleurait. Vous connaissez l'histoire. Une dame qui pleurait près d'une tombe. Et elle pleurait beaucoup. Le prophète a dit à cette dame, « Oh, ma sœur, en ce sens, fais preuve de patience. Hein, Allah te récompensera pour ta patience. » Cette dame, elle était tellement éprise de son chagrin parce que son enfant venait de mourir. Et elle n'avait même pas... Elle ne s'était même pas retournée pour voir qui lui parlait. Elle disait, personne, tu ne sais pas de quoi je souffre. Elle a répondu comme pour en finir avec quelqu'un, tu ne sais pas toi de quoi je souffre. Le prophète n'a rien dit. Voyez comment le prophète était quelqu'un de sage. Il n'a pas dit qu'avec moi tu parles comme ça, moi je suis le prophète d'Allah, tu me dois du respect. Non. Nous aujourd'hui, si on a un petit grade à la société, hey, il faut me respecter. Hein. Ah, moi je suis fundi, ah, moi je suis alim, hein. Moi je suis cher, ah, tu ne me respectes pas, moi je vais faire salat devant parce que je n'ai rien cher. C'est quoi ça? Le prophète, il se fait interpeller par une femme et le prophète ne dit rien, ne répond pas. Et il s'en va. Par la suite, les gens sont venus voir sa femme et disent, je ne savais pas qui t'adressait la parole. C'était Nabi Karim, Nabi alayhi salatu wassalam. Et là, cette femme, elle a eu des remords. Elle a été voir le prophète et dit, Ya Rasulallah, je ne savais pas que c'était toi. Le prophète dit, innama sabru inna sadmatil oula. La patience, c'est dès les premiers moments. C'est quand l'épreuve vous accable, vous vous en remettez à Allah immédiatement. C'est pas que vous avez fini de crier partout votre malheur, votre chagrin, on a fini de taper, on a fini de casser toute vaisselle, la case, on a fini de hurler, on a fini d'entalac ou de madame, on a fini de taper avec deux claques. On va dire, ah non, mais il faut faire ça bas maintenant. Ah, vous avez exprimé votre colère. C'est trop tard. Comme on dit en français ou en créole, comment on dit ça la tisane après la mort. Hein, c'est un proverbe comme ça. Hein? La tisane après la mort. Le médecin aussi dit ça. D'accord. Voilà, ça sert à rien. C'est-à-dire, as-sabru 'inda sadmatil oula, dès les premiers moments, vous avez une épreuve, tawakkaltu 'ala Allah. Vous dites, ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah a décidé, c'est ça. C'est ce qui se produit sur le dunya. Et si Allah n'avait pas voulu que cette chose m'atteigne, cette chose ne mourrait jamais atteinte. Confiance inébranlable en Allah. C'est moi qui le dis, hein. Facile à dire. Mais celui qui est dans la difficulté, il essaie de mettre en pratique. Donc ça c'est la deuxième chose à laquelle il faut faire très attention dès les premières secondes. Dans les problèmes, faites confiance en Allah immédiatement, ne laissez pas échapper les sentiments. On s'en remet à Allah. Pardon. Et la troisième chose dans laquelle on doit faire très attention, on doit être chariz, on doit prendre des précautions dès le départ, c'est al-istighfar wa tawbah. Quand Allah vous donne le tawfiq de demander tawbah à Allah, de lui demander pardon, il y a des fois où vous réfléchissez et vous vous dites que j'ai fait telle erreur, j'ai fait tel péché, franchement vous avez du remords et vous dites que j'espère qu'Allah me pardonnera. Ça c'est un moment clé, ça c'est Allah vous a donné tawfiq de regretter vos erreurs. La première étape pour demander pardon à Allah, c'est de prendre conscience de nos erreurs. Si quelqu'un n'est pas conscient de ce qu'il a fait, ou alors il sait qu'il est parti pendant 5 ans, il est parti en boîte de nuit tous les vendredis soir, d'accord? Oui, non? Sinon, papa Déo. Si pendant 5 ans, il est parti boîte de nuit le vendredi soir, d'accord? Et qu'on lui dit, ben, demande tawbah pour ça, mais pour lui, c'est pas mal ça, c'est pas mauvais. Je vais avec des amis, parfois c'est des musulmans, hein, je fais salam, salam alaikum, ça va, allez bien, alhamdulillah, allez bien, Allah y protège, regarde, en bonne santé, allons en boîte, yallah, d'accord? Il dit que ben, il n'y a rien de mal, j'ai pas tué, j'ai pas volé, m'a payé mon 15 euros, combien coûte 15? Hein, m'a payé pour entrer, j'ai pas fait rien, j'ai pas fait zina, j'ai pas bu d'alcool, je suis juste amusé, je suis jeune. Vous êtes décompressé, coco est fatigué. D'accord? Si la personne n'a pas pris conscience que ce qu'il fait, c'est pas bon, quel toba il va demander à Allah? Il ne demandera jamais. Ou alors s'il va demander quand l'imam dit Allahumma aghfir lana ma qaddamna ma khadi, amin, 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 comme dans d'autres religions, ils disent amen dans l'église. Ça vous apporte quoi ça? Si vous n'avez pas une prise de conscience de vos erreurs, si nous ne nous rendons pas compte qu'on a fait des erreurs, on ne saura jamais demander à Allah pardon réellement. Donc quand une personne se rend compte qu'elle a fait des erreurs, qu'elle commence à éprouver du chagrin, profitez de ce moment clé. C'est Allah qui vous a ramené là, il est en train de vous amener vers lui. Faites votre wuzu, faites deux raka'at et demandez à Allah tawbah immédiatement. et rappelez-vous de tous vos erreurs et essayez de pleurer, demandez tawba, c'est ce qu'on appellera tawbatun nasuha, avec l'intention de ne plus jamais recommencer ce péché. Et là, c'est le tawba qui sera accepté par Allah. Mais quand cette envie, quand cette sensation, vous le ressentez, le regret des péchés, ne dites jamais que bon, quand je pourrai, je vais demander tawba. On appelle ça at-taswif ou bit-tawba. Ça, il ne faut pas. Il n'y a que par la suite, je vais demander tawba. Après, non. C'est maintenant, Allah vous donne tawfi, il faut demander tawba tout de suite. Demandez istighfar immédiatement. Shaitan aimerait tellement que vous ne demandiez pas pardon. Parce qu'il s'est cassé, lui, pour vous faire des péchés. Il donne sa vie pour que vous fassiez des péchés. C'est toute son œuvre, c'est tout son travail, ça. C'est sa mission. Alors, vous voyez, vous croyez qu'il sera content que la personne retourne vers Allah, demande pardon. Et quand quelqu'un demande pardon, tous les péchés peuvent être pardonnés par Allah. Parce qu'Allah, il est Ghafur Rahim. Aucune créature ne peut pardonner comme Allah peut pardonner. Même si quelqu'un, il a fait 20 ans de péché, et un jour, il se rend compte, et avec sincérité, il veut retourner vers Allah, il fait niyyah de ne plus jamais recommencer, Allah est capable de tout pardonner. On doit avoir la conviction. Le prophète avait expliqué que même si les péchés sont plus nombreux que les gouttes de pluie, que l'écume des mers, ou que les grains de sable de le désert, Allah est capable de tout pardonner à partir du moment où dans mon cœur je suis sincère. Et j'ai fait le niyyah, je regrette, je prends conscience que ce que j'ai fait c'est pas bon, et je demande pardon en faisant la promesse à Allah, jamais plus je vais recommencer. Donc ça c'est les trois choses pour lesquelles on doit faire très attention. Dès le départ, on doit demander tawba quand on peut le faire, quand on a une bonne action, on a l'intention de le faire, faites-le maintenant, et quand on est touché par une difficulté, il faut faire preuve de patience le plus rapidement possible et ne pas laisser s'exprimer sa colère ou ses sentiments. On terminera avec un dernier point. On en est à 36 minutes. On a une minute de retard. Arrivé à Tabouk, le prophète alayhi salatu wassalam, il se rend compte que Ka'b n'est pas là. Il se rend compte que Ka'b est absent. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam demande aux sahaba, Aïna Ka'b ibn Malik, où est Ka'b? Et là, il y avait une personne de la tribu de Banu Salama. Et il a commencé à dire des choses. Il a dit que oui, il n'est pas venu. Il a commencé à dire peut-être des choses qui n'étaient pas correctes. Et Ma'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, qui était présent, il a pris immédiatement la défense de Ka'b ibn Malik. Et là aussi, les ulama, rahimahumullah, ils disent que le musulman doit toujours avoir de bonnes pensées pour son prochain. Il ne faut pas laisser Shaitan travailler notre esprit. Vous savez, si on s'en fie à Shaitan, on aurait des mauvaises pensées sur chacun d'entre nous. Par exemple, demain, vous voyez que telle personne n'est pas là sur la Salat al-Fajr. Elle dit, aujourd'hui c'est quoi, lundi? Mercredi Fajr, vous voyez que, rappelez-moi le prénom, Abdul Malik. Ouais, Abdul Malik Atama. Ouais, Abdul Malik, mercredi Fajr n'est pas là, mercredi, alors que tout le temps il est là. Moi je regarde, hop, il s'est là, regarde, ça y est, Olympiakos le Pirée. Il adore minuit et demi, espèce shaitan, la femme du namaz, regarde le football. Mauvaise pensée, mon frère, son papa a parti avec Salat Fajr, Moufia, il est parti avec son père. Ça c'est souvan, les mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, ça vient de qui ça? Directement de Shaitan. Shaitan, il aimerait que les gens se séparent, que les mu'min n'est pas wihda. Je t'en ai expliqué ça un jeune après Salat al-Dhar, en expliquant les divergences qu'on a dans notre communauté, malheureusement, dit que tout ça, ça vient de Shaitan. Dans combien de cas on connaît quelqu'un, on ne connaît pas bien une personne, et on entend parler de cette personne, on entend qu'il aurait dit telle chose, qu'il aurait fait telle chose, qu'il aurait prononcé telle parole, et quand on le voit, c'est comme si c'est notre pire ennemi. C'est comme si c'est un Shaitan de Rajim. C'est le pire des musulmans. Et il suffit parfois d'avoir un contact, de le fréquenter quelques instants, on se rend compte que ce n'est pas la personne que je croyais. Il a des akhlaq que je n'imaginais pas. Et là, on se rend compte que pourquoi j'ai une mauvaise impression de la personne? Parce que j'ai écouté les gens. Je n'ai pas fait comme le prophète m'a dit, Inja akum fasiqun binabayni fatabayyanu. Vous entendez quelque chose? Ne croyez pas. Allez chercher la vérité. Vous voyez si c'est vrai? C'est pas vrai. Il dit que attention aux pensées. Les pensées, c'est les pires des mensonges. C'est-à-dire les mauvaises pensées que chacun met dans la tête, dans le cœur. Il ne faut surtout pas les écouter. Donc ça, c'était un exemple. Et dans toutes les situations de la vie, on se rend compte que très souvent, on a de mauvaises pensées sur notre prochain. Et ça, ça vient directement de Shaitan. Et donc, il faut être comme Mu'ad ibn Jabal. Il a dit qu'il a pris la défense de ce sahaba. Il connaissait ses qualités et il a dit du bien de lui. Il faut toujours trouver une excuse pour son frère musulman. Ne jamais l'accuser. Trouver le maximum de raisons pour lui donner, pour le protéger. Parce que ça, c'est notre frère en islam. Innamal mu'minuna Ça ne doit pas être juste un verset, ça, ça doit être un credo, ça. Ça doit être le mode de vie du musulman. Savoir que mon prochain, quelles que soient ses origines, quel que soit son niveau social, quel que soit le quartier où il habite, n'importe quel musulman, c'est le frère de son prochain. Et je dois l'aimer, le protéger, protéger son honneur, son izzah, comme si c'était mon frère de sang. Et là, le prophète a entendu donc cette personne de la tribu de Banu Salama dire des paroles pas correctes. Il entend Ma'ad ibn Jabal prendre la défense de Ka'b, Wallam yujib shay. Et le prophète n'a rien dit. Il est resté silencieux. Et là, on voit la sagesse du prophète. Il n'a pas d'infos sûres, il ne dira rien. Quand on ne sait pas, qu'on n'a pas de connaissance de quelque chose, alors il n'y a pas besoin de se prononcer. Et le prophète, vous savez qu'au retour à Madina, là, il va demander à Ka'b pourquoi. Il était inutile. Quelqu'un qui n'avait pas la sagesse du prophète, il aurait peut-être écouté que oui, ouais, c'est la saison des dates. Effectivement, il n'est pas venu pour récolter ses dates, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, ça aurait été sous Ovan. Mais le prophète montre au Sahaba également que quand on ne sait pas, on s'abstient. On n'a rien à dire. Et quand il va voir la personne, il demandera. On va s'arrêter, Inch'Allah. Inch'Allah, dans deux semaines, lundi, on va voir comment Ka'b, radiallahu anhu, il va rencontrer le prophète, alayhi salatu wassalam, et comment sa famille va le conseiller de mentir. Parce que les hypocrites, ils ont tous menti. Ils disent que oui, il y avait telle, telle raison. Le prophète, il a dit, khalas, Allah vous pardonne. Et Ka'b, il a tenu à dire la vérité. Sa famille dit, non, ne dis pas la vérité. Le prophète, hein, il y aura des conséquences. Le prophète sera très en colère, il y aura des conséquences. Tu n'as jamais fait de péché. Tu es quelqu'un de très aimé par le prophète. C'est quelqu'un qui était présent à Ghazwatul Badr. C'est pas n'importe qui, sa femme. Et on va voir comment il a préféré dire la vérité plutôt que de s'en sortir comme les autres personnes. Et on va voir également dans différents mawaqif comment cette personne est restée ferme dans son iman. Qu'Allah nous accepte notre fait de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, Inch'Allah, les actions qu'on a accomplies durant ce mois de Ramadan. Qu'Allah accepte ces actions, les salat al-tarawih, les jeûnes, les suhur, les iftar. Qu'Allah exauce chaque doua que les musulmans, que chaque musulman a pu demander, et qu'Allah accorde à chacun le meilleur de ces deux mondes en exauçant tous nos doigts, ce qu'on a demandé, ce qu'on n'a même pas pu formuler, on n'a pas pu demander. Et Inch'Allah, qu'Allah nous donne la possibilité également de rester ferme dans les bonnes actions. Celui qui avait commencé à faire tahajjud, celui qui a commencé à faire des doigts un peu plus longs, donner plus de temps des doigts, qu'Allah l'accepte pour qu'il continue à le faire. Et on a pu jeûner 30 jours, subhanallah. Vous savez, on ne le rappellera jamais assez, parce qu'on va dire que man sama ramadan thumma atba'ahu sitta min shawwal. Celui qui jeûne le ramadan et qui ensuite fait 6 shawwal, Allah lui accorde siyam ud-dahr, l'année, comme s'il avait passé toute une année dans, en état de jeûne. Donc là, aujourd'hui, on est le 12 ou alors le 13 à peu près du mois de shawwal. D'accord ? On est le 12 shawwal. Il reste combien ? Il reste 20. Il reste combien ? Trop fort mathématique. 12 jusqu'à 30, fait quoi ? Il reste 18 jours, j'ai dit à 22. J'ai pas fait S, j'ai fait L. Il reste donc 22 jours. 22 jours, on peut caser plusieurs fois ces 6 jours. Yani, il y a du temps. C'est pas comme si il reste une semaine, il faut commencer dès demain. On a le temps. Et le ulama, ils expliquent également que jeûner les 6 shawwal, il n'est pas obligatoire de les jeûner de manière consécutive. On peut les séparer, les dispatcher. On peut faire 2 cette semaine, 2 la semaine d'ensuite. Mais le tout, c'est de faire 6 jeûnes du shawwal avec l'intention que ça, c'est le jeûne du Shawwal. Donc on essaie de le faire. Ça, c'est une particularité qu'Allah a donnée à cette Ummah. Aucune communauté n'a eu le Ramadan comme nous, la manière dont on a jeûné, et aucune communauté n'a eu cette vertu aussi de pouvoir obtenir une année de récompense en jeûnant uniquement 6 jours. C'est quelque chose qu'Allah nous a donné. Peu d'actions nous procurent énormément de récompenses. Et à travers ça, nous voyons la générosité d'Allah. Les défenses se disent que, attends, 6 jeûnes, on a un an, non, c'est exagéré. Hein, les savants, ils disent ça pour qu'on jeûne, c'est pas vrai. Non, mes chers frères, c'est écrit dans ces hadiths, ça nous fait comprendre que Allah, il est Karim, il est Akram al-Akramin, il est le plus grand, le plus généreux. Et Allah, il veut absolument, il veut que le musulman vienne vers lui. Il veut que ses serviteurs fassent les bonnes actions. Allah souhaite que le maximum de gens accèdent au paradis. Donc, Inch'Allah, par le biais de ce jeûne, Inch'Allah, Allah nous accordera une année de récompense. Maintenant, imaginez quelqu'un, depuis qu'il est balir, jusqu'à son décès, tous les ans après Ramadan, il fait 6 shawwal. Ça veut dire quoi? C'est comme si il a passé toute sa vie en jeûne. Est-ce qu'il y a un être humain qui peut faire ça réellement? Personne ne peut garder carême toute l'année. Et si quelqu'un le fait jusqu'à l'âge de 60 ans, et qu'à partir de 60 ans on est fatigué, il y a la tension, on a la diabète, il faut changer le courroie, il faut changer le pièce, il faut changer la plaquette de frein, tout ça, et qu'on ne peut plus faire pareil. Alors, je vous annonce cette bonne nouvelle que le prophète m'a dit que En ce sens, que celui qui faisait des bonnes actions et qui arrivait à un certain moment, il ne peut plus faire pour, à cause de la maladie ou autre chose, Allah lui accorde continuellement ses bonnes actions. Parce qu'Allah, il sait que s'il n'y avait pas la vieillesse ou la maladie ou le voyage, dans le cas d'un voyage, le hadith plus complet, cette personne aurait fait la bonne action. Donc si quelqu'un, depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, il fait, ou alors même on a commencé à l'âge de 20 ans, il fait ses 6 shawwal tous les ans, il arrive à 60 ans, il n'en peut plus, il est fatigué, il est malade, Allah lui continue à lui donner ses récompenses. Donc cette personne, c'est comme si elle a passé toute sa vie en état de jeûne. Qu'Allah nous accepte. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.